bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Eridien. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Alexandrine Guillard-Lévelec, que nous remercions chaleureusement pour sa présence ici parmi nous. Et un grand merci également à Ellie Wells pour cette initiative et pour sa modération. Donc, Amy, the floor is yours.
Okay, thank you so much, Bertrand. So, thank you everybody for coming. As you know, today is November 24th, and we're really here in the context of November 25th, which takes place tomorrow. I'll remind you, today is Thanksgiving in the United States, so you'll see a lot about that on social media. It's quite a celebratory day, which contrasts quite a bit with our topic for today, which is actually tomorrow. So I wanted to say a few words. I'm going to tell you a little bit about the context of November 25th. I also wanted to explain how it is that Alexandrine's here with us. I know many of you are master's students, and I wanted to explain to you a little bit how our professional associations are working and why that might be interesting for you as a master's student or a PhD student to be involved in a professional association. So I want to go ahead and, even though it'll be a minute before we hear her talk, I wanted to go ahead and introduce Alexandrine, who is a maîtresse de conférence at Paris 1 Pantheon Sorbonne, and she's at the Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. And this year, she is in délégation CNRS. So that means that even though Alexandrine is a teacher researcher, this year she gets to completely dedicate herself to her research projects. So this is really an exciting time for teacher researchers when they can just really focus on their research. And Alexandrine is working on the axe genre for her center. Okay, so she's a maîtresse de conférence en civilisation britannique. And for her délégation CNRS, as I said, she's co-directing the genre axe. Ses travaux portent essentiellement sur des sujets de sociologie du droit, profession juridique, discrimination, justice reproductive. Okay, so that'll be part of our topic today. Dans une perspective de genre intersectionnel. Est-ce que ça vous parle quand je dis genre intersectionnel? Okay, donc on prend en compte classe, race, genre dans les questions de construction de genre. Elle a notamment co-dirigé l'ouvrage « Mon corps, mes doigts »,« L'avortement menacé »,« Panorama socio-juridique »,« France, Europe, États-Unis » avec la juriste Laurence Brunet. Et elle a co-organisé le congrès international « Féminisme, droit et citoyenneté » avec la professeure Rosemary Oshmuti de l'École de droit à l'University of Reading. The collection of essays that Alexandrine has edited is available at our library. It's the library at Campus 5, so if you want to get it, you can order it through the Navette service. I'm sorry I wasn't able to get it for today to show you, but I do want to be sure you know that her book is available at our library. Okay, I wanted to just remind you that we are working with Mr. Cardin and the other colleagues from the Eridia team to, you know, create space for women's studies here locally. I wanted to remind you of the different seminars we've had that deal with women's studies. So in 2015, we had a seminar on women's war writing. And just this year, in collaboration with Madame Kilgore Karadek, a number of the review, The Arts of War and Peace, it's volume 3, number 2, has come out, which is the representation, it's the written works that have come in part from that seminar. So if you want to flash this QR code, it's going to take you straight to the review so that you can find the table of contents and read any of those articles about women's war writing that might interest you. I was the co-editor for this particular number, and one of the articles in the number is the translation of my 95-year-old neighbor's memories of D-Day here in Caen. So I was quite excited to work with her in translating her, you know, memoir of that month of those months of June, July, and August in 1944. In 2019, we were able to welcome one of our colleagues from Bulgaria, where we also talked about contemporary issues in the context of International Women's Day. Because most of the time, we are working on March 8, and it's the first year that we've had a seminar for November 25th. And you can find the work from 2021. Madame Garbaille organized a work day for the Agrégation on women's right to vote. And so that was in December of 2021. Those conferences are available on the Forge Numérique if you'd like to learn more. In 2022, we had a special seminar for International Women's Day again on Break the Bias. We also spoke to you about our project of creating a new review called Verte Vallée, which we're still working on. Those conferences are also available on the Forge Numérique. And so today, for the first time, we're shifting our focus from women's rights on International Women's Day, March 8, to this day, November 25th, which is consecrated to the elimination of violence against women. So you can see that we have two dates in the year that are quite different, okay? Historically, the dates are also quite different. I'll remind you that for March 8, that originated from a protest in 1909, and it became an official day of protest in 1975. And so that's going to be a little bit different than the history of this International Day for the Elimination of Violence Against Women. It wasn't until 1979 that the United Nations adopted the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. So starting off 1979 with a text about ending discrimination against women. It's in 1981 that for the first time, the women rights activists observed November 25th as a day against gender-based violence. And I'll be honest, for a long time, I knew about March 8, but I didn't know about the November 25th date. It's not something that was showing up on my own radar. At my university in Texas, we would work on March 8, but we rarely worked on November 25th. And I think there could be a cultural reason for that. I think most of the times we're on Thanksgiving break when November 25th commemorations and protests take place. We should know that November 25th is observed in honor of the Mirabel sisters who were murdered in the Dominican Republic. The following decade, the UN General Assembly adopted the Declaration on the Elimination of Violence Against Women. In 2000, so nearly another decade later, November 25th is officially designated as the International Day for the Elimination of Violence Against Women. And in 2008, there's the launch of the UNITE campaign, which is to end violence against women. Here we are in 2023, still talking about and still working to end violence against women. And what seems to be statistically just as dire circumstances as the previous decades. So you can see that much like the March 8 date, the November 25th date is very symbolic. It's a date that's declared by the United Nations. The objective of the United Nations is to give us an opportunity to act as individuals, as groups, as communities, as individual nations, to work for improving the situation for women and to work for eliminating violence against women. So just a few words on how we wound up here today. Excuse me. With Alexandrine, we were just joking about this because we saw each other in June. We didn't know we'd get the chance to see each other in November. But I know many of you are master's students, and I wanted to be sure you know that in French academia, we have some special groups for people studying English in France. So one of those groups is called the SOS. Have you already heard about it? Okay, if you're really interested in becoming a high school teacher, junior high teacher, university teacher, I recommend that you start following what the SAS does, because it's the association, it's the Société Savante Association Professionnelle, which manages our discipline of English in France. Do you guys agree?
We do.
Okay. So the SIS is a really big group that has smaller groups under it. One of those groups will be the Société of Études Irlandaises. Mr. Caldon is a member. Many of our colleagues are members of that. And then we have the SAGEF, the Société des Anglicistes sur les Femmes, le Sexe et le Genre. So the SAGEF is a group under the SIS, and Alexandrine is our former president. So in the SAGEF, we're working on women's studies within the Anglophone world. We have lots of ways that you can follow us if you're interested. We have a carnet hypothèse. If you remember when we had our last seminar, we spoke about what a carnet hypothèse is. It's like a display of what your research project is. So on our carnet hypothèse, we explain what is the association. We explain our projects. Our current call for papers is up on that now. We have a new Twitter account, we have a new Instagram account, and we're really excited because in 2023, we're going to be hosting 3 online events which are open and free to master students. So if you're interested in how questions of sex and genre are working in the Anglophone world, I invite you to follow us so that you can join in on those discussions if you'd like to. And I wanted to say how important it's going to be in your future to be working with a group of colleagues. The people around you now might be the people you're still working with in 20 years. And I don't think we always think about that at the time. We think we're gonna get our degrees and go away and do something else. But it could be that in 20 years' time, you're still calling upon each other to collaborate. So bear that in mind. Also wanted to speak about how the activist groups are present here in France. And I wanted to give you the example of Nous Toutes. This is the Nous Toutes UPEC, so for Périès Créteil, but there are actually multiple Nous Toutes for universities here in France. For example, this is an Association pour étudiantes et personnel de l'Université Périès Créteil contre les violences sexistes et sexuelles. And I follow Nous Toutes UPEC on Instagram because they have a feminicide count. They are counting how many feminicides have been taking place in France for the year. Okay, so this post dates from November 4th, and you can see that in this particular post, they're counting the 110th feminicide for 2022. A woman was killed by her ex, boyfriend. The 110th feminicide since the beginning of the year 2022. And I think that the work that Nous Toutes UPEC is doing is very important because we have to know what the actual situation is about violence towards women. And the fact, most of the time I'm on Instagram for fun, but the fact that on my Instagram feed, I see when there's been another feminicide helps me to take stock of how prevalent violence against women is here in France. So I'm just, even though the topic is very difficult, I'm really excited that we're gonna get to listen to Alexandrine today. I've been listening to her for a couple of years now, and I've really learned a lot by listening to her presentations. For one thing, she works on a different area of Anglophone studies than I do. And in her work, I've learned really a lot about reproductive injustice. Although I've been working a lot on how abortion is under attack in the United States the last years, I haven't been working on some of the questions she's working on, which can be things like when a woman is forced to have a cesarean against her will, etc. So without further ado, je passe la parole à Alexandrine. Et on va chercher son PowerPoint. Hop, hop, hop. And we don't know which one it is because we have a little bit of a joke about how we like to use the same template in.
That's great. Thank you so much. Thank you so much for the invitation. Thank you, Bertrand, Amy. I'll switch to French. in particular because the terminology I'll be using is very specific to reproductive issues, and I thought it might be a bit too complicated. Donc, je précise qu'on ne s'est pas consulté tout de même avec Amy pour le choix du diaporama. Et c'était assez drôle de voir qu'on avait fait des choix très, très semblables pour continuer peut-être un petit peu sur la lancée de la pédagogie du féminisme. Il faut aussi savoir que le violet est la couleur du féminisme depuis les mouvements suffragistes de la fin du 19e siècle. Et donc, ce n'est pas non plus complètement un hasard qu'on ait fait ces choix-là, et ce n'est pas non plus un hasard que des mouvements comme Nous Toutes, par exemple, reposent essentiellement sur le choix de cette couleur-là. Voilà, je ne vais pas vous parler de féminicide, je ne vais pas vous parler de violences sexuelles, qui sont, c'est vrai, les violences dont on entend le plus souvent parler quand on parle de la journée du 25 novembre. Vous allez voir que les violences dont je vous parle, on peut les inscrire dans un même continuum qui vraiment, il y a des distinctions en matière de la forme de la violence qui est exercée, mais on va dire que les racines de cette violence sont les mêmes. Mais là, c'est vrai que je vais aborder cette question par un biais un petit peu différent. Donc le 25 novembre, juste peut-être pour donner une petite précision par rapport à ce qu'a dit Amy, effectivement, c'est bien l'assassinat des trois sœurs Mirabal qu'on célèbre en fait le 25 novembre, donc demain. Elles étaient toutes les trois militantes politiques, c'était des opposantes au dictateur Rafael Trujillo en République dominicaine, et elles ont donc été assassinées le 25 novembre 1960. Et c'est vrai que le choix de cette date et la raison pour laquelle cette date a été choisie est assez peu souvent mentionnée. Et donc je pense que c'est important aussi de savoir que ce n'est pas juste une date qui a été prise comme ça au hasard. Donc je te remercie aussi de l'avoir souligné et puis d'avoir souligné effectivement l'importance de ces journées qui sont encore assez souvent présentées, notamment dans les médias, je pense au 8 mars en particulier, comme la journée de la femme, offrez une fleur à vos amis, à vos mères, à vos sœurs, etc. Ici, c'est vraiment pas du tout de ça dont il s'agit, et je crois qu'Amy a très bien retracé les raisons institutionnelles qui accompagnent la mise en place de ces journées internationales. Alors, vous vous demandez peut-être comment on en vient en civilisation britannique, puisqu'effectivement, je suis spécialiste de civilisation britannique, à travailler sur les questions de justice reproductive et d'injustice reproductive. Et du coup, peut-être avant de me lancer vraiment dans mon intervention, je vais vous dire quelques mots sur mon parcours. Donc j'ai commencé par faire une thèse en civilisation britannique sur les discriminations croisées à l'encontre des femmes juges et avocates en Angleterre et au Pays de Galles, donc des années 1970, qui sont des années qui marquent une forte augmentation du nombre de femmes dans les professions juridiques, jusqu'en 2010, qui était la date de ma soutenance de thèse. Et puis, du coup, ça a été vraiment un travail qui mêlait un peu histoire des institutions, histoire des professions aussi, des professions juridiques en particulier. Et puis, bien entendu, des notions de droit que j'ai appris un peu sur le tas et qui s'inscrivaient vraiment dans une perspective anglo-saxonne, dans un champ d'études qu'on appelle « socio-legal studies ». Donc, c'est plus ou moins de la sociologie du droit, qui est vraiment dominée en tant que discipline par les sociologues quand on la pratique en France, mais qui est beaucoup plus interdisciplinaire et parfois même dominée par des juristes, ou en tout cas des personnes qui ont une formation au départ de juriste, dès qu'on est dans les pays anglo-saxons, donc que ça soit le Royaume-Uni ou les États-Unis. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ce domaine-là. Et puis... Ensuite, j'ai obtenu un poste à l'université de Cergy, où j'ai enseigné en LEA à la fois la civilisation britannique et la traduction. Et puis ensuite, j'ai obtenu, du fait de ma spécialisation en fait, et des compétences que j'avais développées pendant mon doctorat, un poste d'anglais juridique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et donc là encore, je crois qu'il ne faut jamais négliger des compétences qu'on peut acquérir et au départ dont on pourrait se dire qu'elles sont un peu secondaires au cours de ces études. Ça peut vraiment ensuite vous donner des opportunités ou façonner un peu votre trajectoire professionnelle d'une façon qu'on n'anticipe pas toujours au moment où on se dit « tiens, bah, ce domaine-là, ça m'intéresse un petit peu ». Et quand j'ai obtenu ce poste, en fait, j'ai rejoint un laboratoire qui était principalement composé de juristes. J'étais la seule angliciste. Et du coup, ça m'a encouragée à peut-être aller vers des questions un petit peu plus larges, et plus larges que les questions vraiment liées aux professions juridiques. Et comme c'était toujours les questions de genre et les questions d'intersectionnalité qui m'intéressaient, j'ai travaillé donc avec Laurence Brunet sur le droit à l'avortement. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé aussi donc sur la césarienne sans consentement et puis les mises à l'adoption aussi sans consentement, dont je vais vous parler en fin d'intervention. Donc voilà un petit peu comment on peut en venir d'un parcours assez classique LLCER civilisation britannique à travailler avec une plus grande ouverture disciplinaire et en tout cas sur des sujets dont je n'aurais pas nécessairement imaginé qu'ils allaient m'occuper au moment de mon doctorat. Donc aujourd'hui, je vous propose une intervention, donc, comme vous l'avez vu, qui s'intitule « Reproductive injustice as violence against women ». Dans un premier temps, je vais vous donner un certain nombre de définitions pour qu'on soit bien clair sur ce dont on parle. Ensuite, je vous parlerai des facultés reproductives au cœur du pouvoir. Je sais notamment que le pouvoir est une des lignes directrices qui façonne le séminaire Eribia. Et là, bon, bien sûr, de toute façon, les formes de violence sont souvent associées à des questions de pouvoir. Et on verra en quoi, ici, il s'agit principalement du pouvoir politique. Dans un troisième temps, donc, je vous donnerai un certain nombre d'exemples pour pas qu'on reste à un niveau théorique et qu'on soit juste en train de parler de la conceptualisation de ces violences. Et vous voyez vraiment... ce que ça veut dire dans la vie, on va dire, reproductive ou dans la vie, dans le cycle de vie, en tout cas, des femmes. Alors, de quoi parle-t-on ? Donc, je vais vous donner quatre définitions pour tenter de cartographier le sujet d'aujourd'hui. D'abord, une définition de ce que sont les violences contre les femmes, parfois utilisée au singulier, la violence contre les femmes. Mais c'est vrai que de l'utiliser au pluriel permet aussi de mieux rendre compte des multiples formes que peuvent prendre ces violences. Donc de plus en plus, on les voit utilisées, on voit l'expression utilisée au pluriel. Ensuite, une question un petit peu bête, hein, pour paraphraser Patrice Juvet, non pas « où sont les femmes », mais « qui sont les femmes ?». Une définition des droits reproductifs pour que là aussi on parle bien de la même chose. Souvent, dans les médias notamment, les droits reproductifs sont réduits à la question du droit à l'avortement et c'est pas du tout un hasard si Amy dit que c'était vraiment cet aspect-là dont elle était familière avant de m'entendre rabâcher un peu toujours la même chose par des perspectives différentes. Un dernier point aussi sur ce que c'est que la justice ou l'injustice. Puisque là aussi c'est une notion très vaste, mais on va voir par quel biais je m'y intéresse. Donc je vais commencer par commenter cette... Les deux premières diapos sont vraiment très denses, vous n'êtes pas du tout obligé de tout lire, et ne vous inquiétez pas, le reste ne sera pas du même acabit. Mais là, je ne pouvais pas vraiment faire de coupe, puisqu'il s'agit de la déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Définition qui a été proposée par les Nations Unies en 1993. Et on voit ici trois paragraphes qui vont permettre de vraiment identifier quels sont ces enjeux et comment ils se sont construits. Donc la violence à l'égard des femmes, vous voyez qu'en 1993, on est plutôt dans une approche au singulier, c'est la violence et pas forcément dans les multiples formes qu'elles peuvent prendre. Constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales, Ce paragraphe-là, il est très important puisqu'il inscrit d'emblée la violence contre les femmes ou les violences contre les femmes comme une violation des droits humains. Et donc, ça l'inscrit vraiment dans le cadre des droits fondamentaux qui sont protégés par un certain nombre de traités internationaux, au premier rang desquels la Convention européenne sur les droits de l'homme et qui sont effectivement protégés par la Cour européenne des droits de l'homme qui siège donc à Strasbourg. Donc ça, c'est vraiment effectivement sur le plan à la fois symbolique mais aussi des moyens qui peuvent être mis en œuvre, très important qu'il y ait cette reconnaissance de ces violences comme une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales. Le second paragraphe, lui, il permet de vraiment inscrire ces rapports de violence en tant que rapports de violence qui sont historiquement construits, comme vous pouvez le lire, donc, reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercée par les premiers, freiné la promotion des secondes. Donc ça, c'est aussi un rappel qui est très important de dire c'est pas une espèce de donnée comme ça qui serait naturalisante ou un fait établi. Il y a eu des processus historiques, des constructions qui aboutissent à ces phénomènes de domination et de pouvoir inégal exercé par les hommes et les femmes, et donc une subordination des femmes aux hommes. Donc je crois que c'est aussi vraiment très important que cette déclaration resitue aussi ces formes de violence sur un plan historique. Et puis troisième paragraphe, donc avant d'arriver aux articles eux-mêmes de la déclaration, la reconnaissance et ici même un constat avec préoccupation, comme vous pouvez le lire, que certains groupes de femmes sont particulièrement vulnérables à la violence. Et là, on rentre un petit peu, même si à l'époque les institutions ne maniaient pas encore le vocabulaire de l'intersectionnalité, on rentre vraiment dans ces questions intersectionnelles pour voir que la catégorie des femmes n'est pas une catégorie homogène et qu'il va y avoir un entrecroisement de rapports de domination et d'oppression qui vont conduire à une marginalisation plus ou moins forte de certains groupes en fonction de leurs caractéristiques. Ici, vous voyez une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais des femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, réfugiées, migrantes, vivant dans des communautés rurales ou reculées, sans ressources, internées. Donc, vous voyez un certain nombre ici d'autres caractéristiques qui peuvent être identitaires ou sociales et qui vont impacter ici directement le type de violence ou on va dire la quantité ou la multiplicité des formes de violence que certaines femmes vont être plus ou moins susceptibles de subir selon leur positionnement par rapport à toutes ces catégories sociales. Et on en arrive aux articles 1 et 2 de cette déclaration. Donc, aux fins de la présente déclaration, les termes « violence à l'égard des femmes » désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes. Donc ici, la déclaration reconnaît bien l'existence d'une violence, même quand elle n'est pas physique et même quand elle n'est pas exercée. Il suffit que la menace de cette violence soit utilisée pour qu'elle soit reconnue comme une forme de violence. Et donc la contrainte ou la privation arbitraire de liberté dans la vie publique ou dans la vie privée sont aussi reconnues comme des formes de violence. Et c'est particulièrement important puisqu'on sait les situations éventuellement de mise en esclavage domestique, de privation, par exemple, des papiers d'identité ou autres, qui peuvent être exercés contre certaines femmes, qui ne sont pas des violences physiques, mais qui sont bien des formes de violence. Et donc l'article 2 énumère un certain nombre de formes de violence, donc la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille. Je ne vais pas revenir sur toutes les formes de violence qui sont détaillées, mais donc la famille est aussi vraiment reconnu comme, par la déclaration comme un lieu dans lequel peuvent s'exercer les violences. Ensuite, la violence qui est exercée au sein de la collectivité, Et puis, je crois que c'est très important aussi, la violence perpétrée ou tolérée par l'État, où qu'elle s'exerce. Et donc, c'est aussi un rappel aux États qu'ils ont un devoir de contrôle, un devoir de surveillance, entre guillemets, qui peut toujours s'exercer à double tranchant, hein, contrôle et surveillance. Il y a à la fois une dimension de protection et aussi parfois une dimension qui peut-être va être plus intrusive. Mais c'est un bon rappel que l'État doit exercer ses responsabilités dans l'ensemble des sphères. Donc l'État peut aussi intervenir au sein des familles. L'État doit aussi intervenir au sein des familles et au sein des collectivités. Et donc au sein aussi des collectivités qui sont directement dépendantes de l'État. Donc ça peut être toutes les agences entre guillemets de l'État, mais aussi des institutions comme les universités. Où ces violences ne doivent pas non plus s'exercer. Tout un chacun et toute une chacune peut saisir, par exemple, ici, les tribunaux pour violation de ces droits fondamentaux, si ces violences s'exercent et si l'État n'a pas mis en place un certain nombre de garde-fous ou de mécanismes pour prévenir la mise en place de ces violences. Alors, voilà pour la question des violences. Et puis, il y a une chose qui n'est pas vraiment définie dans cette déclaration, c'est de qui parle-t-on quand on parle des femmes. Alors, ça peut tomber un peu sous le sens, mais je crois que c'est important de revenir sur cette définition, ou en tout cas tentative de délimiter la catégorie femme. Donc, c'est une catégorie socio-culturelle qui est saisie par opposition à la catégorie homme, que l'on s'appuie sur la binarité de genre ou sur l'idée d'un continuum de genre. C'est-à-dire que les personnes qui refusent l'idée d'un continuum et qui sont très attachées à la binarité de genre, donc avec un groupe homme et un groupe femme d'un côté, ou bien qu'on soit plus ouvert à l'idée que finalement c'est un peu comme un spectre et que d'un côté on a peut-être une polarité femme, une polarité homme, et puis qu'il peut y avoir un certain nombre d'expressions d'identité de genre au sein de ce continuum, on va toujours avoir ces deux polarités et donc définir que ça soit le ventre mou, entre guillemets, ou tout ce qui peut être des expressions, par exemple, non-binaires ou la transidentité, par exemple, on va mobiliser ces deux catégories en se souvenant bien que ce sont donc des catégories socioculturelles et non pas des catégories qui sont fondées sur une biologie qui serait absolument indépassable. Y compris le corps médical, qui a été très longtemps réticent à ces questions, reconnaît, ne serait-ce que par l'existence de personnes qui naissent intersexes, que biologiquement, naturellement, entre guillemets, il n'y a pas non plus une limite tout à fait fixe entre le masculin et le féminin. Un autre point qui, je pense, est très important à souligner, c'est l'hétérogénéité de ces deux catégories. Et c'est pour ça que c'est très important de les utiliser, à mon sens, au pluriel, et surtout d'éviter à tout prix la femme. Comme je vous disais tout à l'heure, dans les médias, on entend tellement souvent la journée de la femme. Ici, on a vraiment ce que j'appelle un péril essentialisant et universalisant. Et donc, c'est l'idée que la femme est une espèce d'entité un peu mythologique, on ne sait pas très bien la définir, on ne sait pas très bien ce que ça recouvre, mais voilà, on en parle comme ça, avec soit une espèce de respect finalement un peu condescendant, ou enfin voilà, sans vraiment savoir de quoi on parle. Donc pour les hommes, c'est moins souvent le cas, et si vous regardez des travaux historiques, c'est vraiment très très fréquent de trouver des travaux où les hommes sont vraiment évoqués au pluriel, et la diversité à la fois de leurs activités professionnelles, de leurs catégories socio-économiques est vraiment bien prise en compte. Là où très souvent, si on retombe sur des textes d'historiens, par exemple des années 50 ou 60, très très souvent vous allez avoir effectivement les hommes d'un côté et puis la femme de l'autre. Donc rappelons-nous bien que ces deux catégories sont traversées par toutes les autres catégories dont je parlais tout à l'heure, les catégories de race, les catégories de classe, d'orientation sexuelle, ça peut être ruralité, urbanisme ou urbanité, et selon voilà, les aspects qu'on a envie de mettre en avant, mais en aucun cas donc des catégories homogènes. Et là, je vous ai recopié une petite citation qui se trouve au tout début d'un ouvrage de Marie-Blanche Taon, « Sociologie des rapports de sexe ». « Si la situation des femmes est hétérogène, il y a donc aussi de l'asymétrie entre elles. Des femmes sont placées dans des rapports de pouvoir sur d'autres femmes. Des femmes exploitent directement la force de travail de femmes. Des femmes ostracisent des femmes, etc. » Donc, c'est pas du tout pour mettre en avant une sorte de concurrence, par exemple, entre groupes de femmes, mais pour se rappeler aussi qu'il y a des rapports de pouvoir qui se constituent et qui se mettent en place au sein, bien entendu, des catégories hommes et femmes. Et donc, là encore, la catégorie femme, puisqu'elle est traversée par toutes ces autres dimensions, va nécessairement faire qu'il y a des rapports asymétriques. Et ça aussi, je crois que c'est important de s'en souvenir. De se souvenir aussi que la violence contre les femmes peut être commise par des femmes à l'égard d'autres femmes, de la même manière que des rapports de domination, par exemple de classe, ou des rapports de domination, admettons de harcèlement au travail, peuvent aussi, bien entendu, être le fait d'hommes envers des hommes ou de femmes envers des femmes, de femmes éventuellement envers des hommes. Et donc ces questions d'asymétrie et aussi de reconfiguration, elles sont importantes pour ne pas avoir des visions trop schématiques avec l'idée qu'il y a deux blocs qui s'affrontent et un peu cette idée de sex wars ou culture wars. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce concept un petit peu de guerre des sexes, mais qui traverse aussi des mouvements du féminisme et qui est très souvent reproché au mouvement féministe, qui serait d'installer une sorte de guerre contre les hommes. Et donc, voilà, je crois que la meilleure réponse qu'on peut apporter lors de ce genre d'allégation, c'est effectivement de rappeler cette hétérogénéité de la catégorie femme. Voilà. Pour aller donc un tout petit peu plus loin, ça veut aussi dire, cette hétérogénéité, elle a aussi des conséquences dans le mouvement du féminisme, qui va être un mouvement multiple et lui-même hétérogène. Et là, je cite Laure Bérény, qui, elle, a beaucoup travaillé sur ce qu'elle appelle l'espace de la cause des femmes. Penser la transversalité des mobilisations féministes. Et qui rappelle que la multiplicité des manières de dire la cause des femmes est le produit de l'hétérogénéité même de la catégorie femme, traversée par un enchevêtrement de rapports de pouvoir que l'on désigne habituellement par le terme d'intersectionnalité. En tout cas dans ma conception des choses et dans la présentation que je vous donne aujourd'hui, j'inclus les questions qui concernent les femmes trans, puisque j'estime que, de facto, la catégorie des femmes est une catégorie hétérogène. Et donc, je pense qu'il est vraiment important de dépasser les tensions très fortes qu'on retrouve notamment dans les espaces militants entre le féminisme dit radical et le féminisme dit trans-exclusionary, et donc d'inclure les questions qui concernent les femmes trans dans les questions qui concernent les femmes, y compris les questions reproductives, même si ces questions sont à la marge, puisque d'autant plus dans ma perspective, je pense que les questions qui se posent à la marge et qui concernent peut-être effectivement statistiquement un nombre bien moins important de personnes permettent aussi d'agir un peu comme des révélateurs et de mettre en lumière aussi d'autres questions qui sont peut-être plus significatif sur le plan, en tout cas, quantitatif. Alors, la définition suivante, et je me trompe à chaque fois de bouton, voilà, c'est celle des droits reproductifs. Donc, très souvent, dès qu'on va taper droits reproductifs sur un moteur de recherche ou qu'on veut faire une recherche, par exemple, dans la presse, on tombe quasiment uniquement sur des contenus liés au droit à l'avortement. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée parce que là, donc, dans le cadre de ma délégation, j'avais envie un petit peu de varier les types de sources sur lesquelles j'allais travailler. Et donc, au-delà des articles universitaires et des ouvrages dont j'avais établi une petite liste, j'ai fait une recherche de podcast sur les questions autour de la reproduction. Donc, j'ai essayé différents mots-clés sur des plateformes de podcast. Donc, à commencer par, en français et en anglais, justice reproductive, reproductive justice. Je n'ai pas trouvé grand-chose, donc je suis allée vers... Reproductive Rights, en me disant bah, ça va être quand même un petit peu plus large. Et en fait, de façon quasiment systématique, même lorsque le titre du podcast était, par exemple, Reproductive Justice ou bien Reproductive Rights, quasiment toujours, le contenu était exclusivement ou presque dédié à l'avortement. Donc, comme vous allez le voir là, en réalité, les droits reproductifs sont vraiment bien plus vastes et c'est encore une définition des Nations Unies, donc cette fois-ci de 1995. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l'espacement de leur naissance et de disposer des informations nécessaires pour ce faire et du droit de tous d'accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Ce droit repose aussi sur le droit de tous de prendre des décisions en matière de procréation sans être en but à la discrimination, à la coercition ou à la violence, tel qu'exprimé dans des documents relatifs aux droits de l'homme. Donc on voit là aussi que les droits reproductifs sont vraiment inscrits dans les droits fondamentaux et dans les droits de la personne humaine, ici exprimé comme droit de l'homme, même si on va de plus en plus vers la terminologie droits humains, comme human rights en anglais. Et donc on voit que ça va bien au-delà du droit à l'avortement, puisque c'est le droit à la contraception, hein, décidé librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l'espacement de leur naissance, mais aussi le droit à l'information contraceptive, puisque pour choisir sa contraception, encore faut-il être informé des différentes techniques existantes, du droit de tous d'accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Donc là, on voit que, bien sûr, la question de la santé va être très importante et que les enjeux reproductifs vont être aussi liés à des enjeux de santé sexuelle, qui peuvent être aussi des enjeux qui sont envisagés en dehors de toute finalité reproductive, bien entendu. Et puis, donc, toujours cette question de pouvoir exercer ce droit sans discrimination, sans coercition, sans violence. Et donc là, de ne pas être, par exemple, contraint à l'avortement ou au contraire, empêché d'avoir recours à l'avortement, d'avoir le droit de choisir sa contraception, une forme plutôt qu'une autre si on le souhaite. Donc ça veut dire que, sur le papier en tout cas, les couples et en particulier les femmes ont le droit, admettons, de choisir un dispositif intra-utérin, autrement dit stérilet, à la place par exemple d'une pilule contraceptive. Ce choix n'est pas le choix par exemple du médecin, de la gynécologue ou du conjoint, etc. Et qu'il ne doit pas non plus y avoir de forme de discrimination, qu'elle soit donc raciale, fondée sur le statut socio-économique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de bien plus vaste que le seul droit à l'avortement. Et du coup, vous verrez peut-être vous-même, si vous y prêtez un petit peu attention, les questions liées à l'avortement sont malheureusement reçoivent beaucoup de faveurs médiatiques, on va dire, à la défaveur des développements, en particulier aux États-Unis, hein, puisqu'il y a beaucoup de recul dans un certain nombre, enfin au niveau fédéral, mais aussi dans un certain nombre d'États. Mais souvenez-vous que ça va bien au-delà et je vais vous montrer pourquoi. Dernière définition, avant de voir pourquoi toutes ces questions reproductives sont au cœur du pouvoir, c'est la définition de la justice et de l'injustice. Donc, sans rentrer dans des débats philosophiques, la théorie de la justice et les conceptions, surtout on va dire européennes de la justice, elles dérivent beaucoup des, des écrits d'Aristote, en particulier le livre 5 de son Éthique à Nicomaque. Donc c'est le traité de la justice, et ce traité vient clore l'examen des vertus morales. Donc il y a toujours un rapport entre, enfin depuis en tout cas l'Éthique à Nicomaque, il y a vraiment un rapport très fort entre justice et morale. Et il y développe notamment le rapport de la justice à la notion d'égalité, d'où découle, d'après lui, le besoin soit de justice distributive ou de justice corrective. Après, bien entendu, les choses ont considérablement évolué depuis l'Antiquité, et la question de l'égalité, par exemple, s'est énormément modifiée, puisque à l'époque, par exemple, il était tout à fait normal de dire que certaines personnes étaient des citoyens, pas de citoyennes à l'époque, mais voilà, les femmes étaient de facto exclues de la citoyenneté. Elles ne pouvaient en aucun cas réclamer une forme d'égalité avec les citoyens, mais il y avait par exemple des formes d'exclusion comme ça de cette égalité, en tout cas dans la citoyenneté, qui ont beaucoup changé. Mais voilà, le rapport à la morale et le rapport à la notion d'égalité, c'est vraiment deux notions qui sont centrales pour les questions de justice et d'injustice. Au sein de la justice, peut-être la forme qui m'intéresse le plus, ou en tout cas qui m'est la plus utile dans mes travaux, c'est la question de la justice sociale, et donc toutes les approches qui se posent la question « qu'est-ce qu'une société juste ?». Ce sont des approches qui sont souvent philosophiques, mais pas seulement, et qui cherchent à identifier les principes de répartition des biens économiques et sociaux pour une société plus égalitaire ou parfaitement égalitaire, autrement dit, une société idéale. Donc ça, c'est la définition qu'en donnait Cadille en 2010. Et pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent, c'est une tradition, en tout cas du point de vue de la philosophie, qui a beaucoup été développée par John Rawls, et donc ensuite avec différents courants. La justice reproductive, donc, qui va être un peu ma transition vers ma deuxième partie, elle se trouve justement à la croisée de la justice sociale et de la justice et des droits reproductifs, pardon. Ça va être un cadre d'analyse, mais aussi un cadre de pratique et un cadre aussi pour des pratiques militantes, qui a été mis en place par un collectif qui s'appelle Sister Song Women of Color Reproductive Health Collective, qui a été créé en 1997 par 16 organisations de femmes issues des communautés Native American, African American, Latina et Asian American. Parce qu'en fait, ces collectifs, justement, n'en pouvaient plus que tout le débat autour des droits reproductifs soit vraiment dominé par la question du droit à l'avortement. Donc c'est un courant qui a émergé aux États-Unis, hein. Et notamment par la dichotomie des mouvements dits pro-life, donc anti-avortement, et pro-choice, donc favorable au droit à l'avortement. Non pas au fait qu'il faut imposer l'avortement systématiquement, mais qu'il faut pouvoir le choisir si on le souhaite. Le constat qu'elles ont fait, et sur lequel je vais revenir, c'est que c'était un débat donc qui réduit énormément d'abord ce qu'on entend par droit reproductif, et puis qui enferme aussi les femmes dans des dynamiques très individuelles, de choix personnels, là où en fait elles se rendaient bien compte que très souvent c'était des choix qui sont contraints par d'autres problématiques, par exemple des problématiques économiques, des problématiques d'accès aux soins qui sont particulièrement criantes aux États-Unis, et que donc non seulement on regardait vraiment les choses par le petit bout de la lorgnette, mais en plus on faisait reposer sur les femmes un choix soi-disant individuel, alors qu'en réalité il était motivé par tout un tas de décisions politiques comme l'organisation du système de santé, la distribution des richesses économiques, etc. etc. Donc c'était vraiment pour elle l'idée de se dire on va adopter les principes de la justice sociale pour les appliquer à la question des droits reproductifs et changer de paradigme. Donc là, c'est ce que je viens de vous... j'avais oublié de changer de diapositive. Je suis vraiment désolée, je pensais que c'était ce que vous voyez derrière. Donc voilà, l'éthique à Nicomaque, la justice sociale et Sister Song. La plupart du temps, on voit simplement la référence à Sister Song, mais le nom complet, en tout cas, de ce collectif était Sister Song Women of Color Reproductive Health Collective. Et donc, la transition vers le grand 2, comme je vous disais, c'est donc ce paradigme de la justice reproductive qui articule les droits reproductifs avec d'autres enjeux plus systémiques et qui place de facto les questions reproductives au cœur du pouvoir, donc du pouvoir économique, puisque comme vous disiez, elles se sont vraiment rendues compte que les possibilités, on va dire, dont les hommes, dont les femmes bénéficiaient variaient grandement en fonction de leur statut économique et de leur revenu. C'est aussi une question qui est au cœur du pouvoir politique, et ça je vais m'y étendre un petit peu plus, et aussi bien entendu au cœur du pouvoir symbolique, puisque le déni ou au contraire la facilité d'accès à la mise en œuvre des droits reproductifs va avoir un impact aussi symbolique très, très fort sur les libertés dont bénéficient les femmes. Et donc elle le formule en ces termes: Individual choices have only been as capacious and empowering as the resources any woman can turn to in her community. Et donc là on voit que ça va dépasser largement le choix des questions, la question du choix individuel, mais c'est de quel soutien est-ce que je vais pouvoir bénéficier. Alors, in her community, ici, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être au sein de sa famille, par exemple. Bien entendu, les opportunités ou par exemple, l'accès à l'information va être extrêmement différent. Si vous êtes dans une famille qui est très religieuse et qui, par exemple, s'oppose à la contraception, ou si au contraire, vous êtes dans une famille plutôt progressiste et puis qui décide de vous laisser le choix en matière de contraception. Ça peut être aussi la communauté au sens beaucoup plus large, au sens d'un groupe, par exemple, culturel et amical. Ça peut être au sein éventuellement d'un quartier ou d'un village en fonction de l'endroit où vous habitez. Et puis aussi, bien entendu, des questions plus politiques et plus systémiques, comme vous le disiez, comme l'organisation des services de santé, comme qui vont être ici des décisions politiques de mise en œuvre d'un certain nombre de principes. Et donc, il y a trois principes fondateurs à ce paradigme. The right not to have a child. Et ici, il est bien mis en première position. Et donc, c'est donc le droit de faire ce choix de ne pas avoir d'enfant qui va regrouper, bien entendu, recouper le droit à la contraception. Mais pas seulement. Ça peut être aussi de ne pas avoir d'enfant du tout au long de sa vie, pas seulement pendant une période donnée, par exemple. The right to have a child est un aspect qu'on oublie assez souvent dans les droits reproductifs. The right to parent children in safe and healthy environments. Et donc c'est aussi le droit à la parentalité. Ça s'explique parce que aux États-Unis, mais c'est aussi le cas au Royaume-Uni, c'est pas du tout l'apanage des États-Unis, certains groupes, et en particulier les personnes racisées, se voient beaucoup plus retirer leurs enfants par les services sociaux que les personnes blanches. Et donc, c'est aussi le droit à la parentalité et à élever les enfants qu'on a eu. Donc, c'est un mouvement qui est né des revendications de femmes racisées voulant faire valoir leur droit à la sexualité et à la fertilité. Et c'est un mouvement qui a embrassé, dès qu'elle s'est développée, la cause LGBTQI et qui ne voit pas ces enjeux, les enjeux des personnes LGBTQI comme distincts des autres enjeux de justice reproductive. Et donc notamment dans leurs écrits, ils vont utiliser de façon on va dire pas aléatoire, mais ils vont autant utiliser le terme « woman » que « person » par exemple, ou « parent », pour essayer de ne pas effacer la catégorie « femme », parce qu'effectivement, notamment dans tous les développements historiques, si on se repose sur, par exemple, la société esclavagiste des États-Unis ou... la période du mouvement des droits civiques ou voilà, d'autres périodes historiques, les conceptions en tant que groupe hommes et femmes étaient vraiment beaucoup plus divisées et vraiment perçues de façon très, très distincte. Et en même temps, dans des enjeux plus contemporains, il peut y avoir des choix différents qui impliquent une terminologie différente. Peut-être que... Oui, si, c'est ça. Donc, maintenant que j'ai dit ça, maintenant que je vous ai présenté ce paradigme de la justice reproductive, ça n'explique pas forcément pourquoi ces questions sont en particulier au cœur du pouvoir politique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ici, je m'appuie surtout sur les travaux de Susan Gall et Gail Kligman, qui ont en particulier... étudier les pays d'Europe de l'Est après la reconfiguration et l'éclatement du bloc soviétique en 89, mais dont les analyses sont vraiment intéressantes et peuvent s'appliquer beaucoup plus largement. Et elles indiquent donc la politique de la reproduction, ici, donc je m'appuie sur une version traduite de leur travail, mais c'est une traduction de l'anglais. La politique de la reproduction n'envisage pas seulement comment des relations de pouvoir distantes affecte la mise au monde des enfants, mais aussi comment le processus politique lui-même est façonné par la discussion sur la reproduction et par son contrôle. Plus loin, elles affirment, les débats politiques sur la reproduction contribuent à redistribuer les rôles, entre l'État et ses citoyens, servent de discussion codée sur la légitimité politique et la moralité de l'État. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ces questions peuvent être... parfois instrumentalisées à d'autres fins politiques, distinguent les femmes comme actrices politiques d'un type particulier, donc établissent aussi une distinction entre un groupe homme et un groupe femme, et font ou refont la nation et ses frontières. Et comme je vous le disais, bien que ce soit des analyses qui ici, en tout cas pour cet article-là, sont principalement centrées sur les pays d'Europe de l'Est, on voit bien dans leurs analyses comment les mouvements nationalistes vont développer un intérêt particulier pour les questions reproductives. Et si on continue avec l'exemple des États-Unis, on a donc tout le mouvement White Supremacists et puis Alt-Right qui est vraiment au taquet, entre guillemets, sur ces questions et qui a vraiment développé toute une théorisation des questions reproductives et de ce qu'ils aimeraient mettre en place, avec une volonté d'eugénisme, alors selon les groupes et selon les pays, etc., un eugénisme plus ou moins actif ou plus ou moins passif, mais en tout cas une idée qu'on pourrait modeler la population à venir en favorisant les naissances. Alors par exemple pour les suprémacistes blancs dans la population blanche et en décourageant, alors soit par la force, soit par tout un moyen de, on va dire déguisé, et donc ça ce serait un eugénisme plutôt passif, donc d'empêcher, on va dire, ou de réduire le taux de natalité dans d'autres groupes qui seraient entre guillemets moins souhaitables. Selon ces idéologies. Donc on voit vraiment que ces questions vont être au cœur du pouvoir politique. C'est aussi au cœur du pouvoir politique parce qu'il y a une véritable implication des facultés reproductives, des femmes en particulier, et de la citoyenneté. Alors je ne vais pas trop développer parce que sinon je vais vous tenir jusqu'à 17h et il y aura le temps de rien. Mais si vous êtes intéressé par ces questions... je vous invite à consulter, alors à Paris 1, ça ne s'appelle pas la Forge, mais ça s'appelle la médiathèque numérique. Et donc, vous avez en ligne tout un tas de vidéos. Et vous avez notamment la vidéo de la conférence plénière donnée par Diane Roman, donc une collègue juriste, lors du congrès international Féminisme, Droit et Citoyenneté que j'avais co-organisé en juillet dernier. Et elle démontre vraiment très très bien comment la citoyenneté des femmes est vraiment modelée par ces questions reproductives. L'autre aspect qui me semble très important quand on parle de l'implication des questions reproductives et du pouvoir politique, c'est le jeu des échelles, donc à la fois locale et globale, et puis aussi transnationale. Donc les questions reproductives, elles vont aussi se développer dans la société dans laquelle on vit, et donc elles ne sont absolument pas prises dans un vide. Elles sont prises dans une société de marché, une société capitaliste, etc., avec des intérêts pharmaceutiques qui peuvent être défendus assez amèrement par les États pour pouvoir asseoir une forme de pouvoir économique ou voilà, dans une dynamique, par exemple, d'import-export, etc. Donc il y a ces dynamiques qui sont transnationales et il y a aussi d'autres dynamiques transnationales et ça, ça a partie liée avec la stratification de la reproduction. C'est aussi tout ce qui va concerner les échanges, entre guillemets, transnationaux qui permettent l'élevage des enfants, notamment dans les pays dits du Nord, et souvent en se reposant sur un travail de care qui va être réalisé par des femmes venant des pays dits du Sud. Et donc ça va être toute la mise en place des nounous qui peuvent venir de par exemple, je ne sais pas, des Philippines, de certains pays d'Afrique de l'Ouest, etc. Et ça va être aussi des dynamiques de, on pourrait dire, délocalisation aussi de la reproduction avec les mères porteuses en Inde, par exemple. Enfin, vous le savez peut-être ou pas, mais pendant de nombreuses années, les femmes indiennes ont un peu servi de ventre, entre guillemets, à un certain nombre de femmes européennes et occidentales, des États-Unis notamment, qui n'arrivaient pas elles-mêmes à avoir d'enfants et donc faisaient appel à des mères porteuses en Inde. Ça n'est plus possible aujourd'hui puisque le gouvernement indien a fermé la possibilité de ces gestations pour autrui à l'international. Donc ce sont uniquement des femmes indiennes qui peuvent faire appel à d'autres femmes indiennes. Mais il y a des dynamiques comme ça qui vraiment sont tout à fait transnationales, là où on va avoir d'autres imbrications, donc dans des échelles beaucoup plus locales, comme je le disais, dans les cercles familiaux, amicaux, les services de santé qui sont disponibles dans la ville où on habite, etc. etc. Et là, c'est notamment un article très important qui a été réalisé par une sorte de grand état de l'art, qui a été réalisé donc par Faye Ginsberg et Rainer Rapp en 91, donc deux anthropologues qui ont publié un long article, The Politics of Reproduction, dans lequel elles essayent justement de démêler un petit peu tous ces enjeux. Et donc elles rappellent la diversité de ces expériences et la nécessaire contextualisation quand on évoque les expériences reproductives. No aspect of women's reproduction is a universal or unified experience, nor can such phenomena be understood apart from the larger social context that frames them. Donc ça ici vraiment un rappel qu'il n'y a pas d'universalité et qu'il faut vraiment à chaque fois essayer de prendre en compte le contexte pour ne pas vraiment faire des espèces de jugements à l'emporte-pièce. Ah, et puis...
Excusez-moi, c'est un diapo avec cette référence. Voilà, c'est celle-ci.
C'est moi qui oublie de cliquer sur la... Tu fais bien de me le rappeler.
C'est ça qui est pas très adapté.
Voilà, cette citation-là. Et puis la seconde, donc, « No discussion of contemporary state power can fail to note the intricate national and international connections among the rise of medical professions and industries, global markets and labor and pharmaceuticals and ideologies and policies explicitly linking economic development to population control. » Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que c'est un article qui date de 1991, donc qui a un petit peu plus de 30 ans, et qui déjà mettait le doigt sur les enjeux économiques liée à la montée donc, de cette industrie pharmaceutique et de tous les enjeux géopolitiques qui entourent aussi l'industrie pharmaceutique. Et donc, effectivement, la question du contrôle des populations, hein, y compris en France, on a une sorte de comité de pilotage au niveau de l'État qui essaye de voir un petit peu quelles sont les tendances. Vous entendez souvent parler de l'indice de fécondité qui reste une des préoccupations majeures dans de nombreux pays. Et donc, il y a vraiment cette préoccupation des États pour le contrôle de la population. Pas forcément à des fins nationalistes et pas forcément à des fins économiques, mais c'est vraiment pris dans un enchevêtrement de considérations qui dépasse de loin les simples questions reproductives. Et donc maintenant que j'ai fait à peu près le tour des définitions et du fait que ces questions sont très importantes sur le plan politique, je vais vous donner un certain nombre d'exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, puisqu'on est dans un séminaire d'anglicistes, je vais vous donner des exemples qui proviennent de l'ère anglophone, mais tout en gardant à l'esprit que ce sont vraiment des enjeux internationaux et des enjeux transnationaux, et que je pourrais aussi vous donner des exemples français sur les mêmes questions, qui seraient étonnamment proches. Alors, un phénomène qui est intéressant à noter aussi, c'est qu'on est dans une période, il me semble, où on a à la fois une forme de reconnaissance de ces injustices reproductives ou de ces formes de violences reproductives et de résistance face à la reconnaissance de ces violences-là. Donc, vous avez sûrement noté que ça fait quelques années, par exemple, qu'on parle beaucoup plus qu'avant des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, toutes les violences que peuvent subir les femmes, non seulement quand elles accouchent, mais aussi pendant le suivi de grossesse ou bien tout simplement pendant le suivi gynécologique qui est généralement préconisé dès l'adolescence. Donc, il y a eu vraiment une... notamment aussi avec le phénomène MeToo, hein, dans la suite de cette vague-là, à partir de 2017, une levée du tabou qui entourait ces questions-là. Et on est en même temps dans un moment où on a une remise en question du droit à l'avortement, en particulier aux États-Unis, mais qui inquiète bien au-delà des États-Unis et qui a des répercussions, y compris en France. Hein, on a un certain nombre de juristes. Alors là aussi, les progressistes et les plus traditionnalistes s'affrontent un peu autour de la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France. Donc, est-ce qu'on devrait, oui ou non, protéger ce droit ou l'accès à ce droit dans la Constitution française ? Le droit à l'avortement, il est aussi beaucoup remis en question dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, tous les pays où l'extrême droite est arrivée au pouvoir. Et donc là, on voit encore que... Bon, je sors des exemples anglophones, mais on voit bien qu'il y a cette tension entre levée du tabou, reconnaissance de ces formes de violence, et puis une sorte de retour en arrière, une sorte de backlash dans un certain nombre d'autres contextes, et parfois dans les mêmes contextes. Et du coup, on a l'impression aussi d'évolution à deux vitesses ou d'une forme de coexistence de ces deux tendances. Ce qui est intéressant aussi à garder en mémoire avant de regarder ces exemples, c'est que très souvent, ces questions sont présentées de façon fragmentée, à la fois sur les plans conceptuels, médiatiques et grand public, parce que c'est vrai, et vous l'aurez compris en m'écoutant, il y a beaucoup de questions qui relèvent de la santé, mais il y a aussi des questions qui relèvent plutôt du droit. Donc la santé, généralement, ça va plutôt être des questions qui vont être gérées par les médecins. Les questions du droit, ça va être tous les juristes, les juges, les avocats, etc. Les questions éthiques, qui vont être gérées par exemple par des comités d'éthique ou de bioéthique, qui sont à la croisée et souvent qui recoupent aussi les professionnels du droit et de la santé, mais pas que. Ça peut être aussi, par exemple, des questions philosophiques. Et puis, on a vu que ça s'inscrit aussi dans le continuum des violences faites aux femmes, ou gender-based violence. Et donc, on voit que même les journaux, souvent, présentent les choses de façon très séparée. Quand vous allez avoir des articles sur les violences gynécologiques, ça va être plutôt dans la section, par exemple, société. Si vous avez des... Par contre, si c'est tout ce qui concerne accès à la PMA ou les questions comme ça, ça va être plutôt réglé en santé. Si c'est, par contre, admettons, un cas de césarienne forcée, ça va être soit traité dans la section plutôt juridique ou soit traité dans la question plutôt violence. Mais du coup, il n'y a pas vraiment d'approche holiste qui permettent de voir un peu ces questions toutes ensemble. Et ça fragmente aussi, bien entendu, les réponses qui peuvent être apportées à ces formes de violence. Et puis, il me semble qu'on peut aussi analyser la focalisation sur le droit à l'avortement elle-même comme symptomatique de ces formes de violence reproductive, puisque ça devient un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc on voit le droit à l'avortement et les difficultés d'accès à l'avortement, qui sont des difficultés bien réelles et dont je minimise absolument pas l'importance, hein, entendons-nous bien, mais qui cachent derrière le fait que d'autres femmes, au contraire, peuvent subir des pressions pour avoir recours à un avortement, voire être avortées sans consentement. Et puis, tout un tas d'autres questions qui sont tout aussi importantes, mais dont on ne parle finalement quasiment jamais, sauf de façon très spécifique ou très conjoncturelle. Alors, le droit que vous connaissez, la question que vous connaissez le mieux, c'est le droit à l'avortement. Aux États-Unis, donc, on est passé de l'arrêt Roe versus Wade de 1973 et non pas 93 comme je l'ai écrit là, et donc qui établissait un droit à l'avortement sur le principe de privacy, donc c'est l'idée de la propriété privée en quelque sorte, et le fait que l'État n'a absolument pas à faire d'ingérence dans la vie privée des gens, que ça soit leur corps ou leurs décisions, par exemple leurs convictions religieuses, etc. Donc c'était vraiment, ça reposait vraiment sur le droit à la vie privée, sans aucune mention du fait que ça puisse être un droit dans la lignée des revendications féministes de type « mon corps, mes droits ». Et donc ça, c'était un arrêt qui avait force de loi fédérale, hein, et qui empêchait les États des États-Unis d'intervenir par rapport aux décisions que les femmes pouvaient faire en matière de grossesse, qui avait déjà été beaucoup rogné de l'intérieur. Il y avait eu beaucoup de décisions qui avaient été prises dans un certain nombre d'États et qui faisaient un peu de Roe v. Wade une coquille vide. Mais là, on a eu donc en juin 2022 ce nouvel arrêt rendu par une cour dont vous savez sans doute qu'elle est devenue extrêmement conservatrice à la suite des nominations effectuées par le président Trump. Donc Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, et qui donc récuse l'arrêt de 1973. Et on s'imagine parfois naïvement que ça va uniquement concerner l'avortement, comme son nom l'indique, alors qu'en réalité ça va bien au-delà, puisque ça veut dire aussi que les femmes qui font des fausses couches et qui se rendent à l'hôpital sont maintenant très souvent suspectées d'avoir tenté de procéder à un avortement elles-mêmes. Et donc, il y a eu un cas en juillet, par exemple, au Texas, d'une jeune femme qui s'est rendue à l'hôpital suite à une fausse couche. Elle a fait l'objet d'un... Enfin, quelqu'un dans l'hôpital a appelé la police pour dire qu'il pensait que c'était une tentative d'avortement. La police est intervenue. Elle a été donc... suspectés, donc, enfin, ils ont, bon, ça a été tout de suite très médiatisé, et heureusement pour elle, et le soufflet est redescendu aussi vite qu'il était monté, mais il était question effectivement qu'elle soit poursuivie au pénal suite à cette fausse couche. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pense, à laquelle on ne pense pas toujours, mais qui est vraiment aussi très importante. Ça a aussi des implications en termes de suivi gynécologique. Un certain nombre d'États aussi sont en train de mettre en place des restrictions en matière d'accès à la contraception. Et donc, ça se répand vraiment beaucoup plus loin que le droit à l'avortement. Et puis, il y a une fragilisation particulière des femmes en matière d'avortement aux États-Unis, qui est due à l'organisation du système de santé, au manque de mutuelles et de couverture sociale, au fait aussi que les congés, par exemple, sont moins importants que les congés dont on peut bénéficier, par exemple, en France et dans la plupart des États d'Europe de l'Ouest, et qui font que ce n'est pas forcément facile de poser une journée, par exemple, pour aller faire une IVG, d'autant plus dans la configuration actuelle où donc un certain nombre d'États ont fermé l'ensemble des cliniques qui permettent d'avoir accès à l'avortement, et donc il faut faire des milliers de kilomètres. Ce n'est pas une image, c'est vraiment au sens propre, des milliers de kilomètres pour aller avorter dans un État voisin. Ce qui pose là aussi un nombre de problèmes absolument incroyables, puisque les États limitrophes ne peuvent pas faire face à l'afflux de femmes qui viennent des États où c'est maintenant interdit. Ce qu'il ne faut pas oublier, comme je le disais, c'est qu'il y a aussi des avortements forcés. C'est une pratique qui est bien documentée, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Qui repose souvent sur des stéréotypes racistes. Et il y a des témoignages alors, qui peuvent remonter aux années 70. Hein, ça a été un peu le début, par exemple, au Royaume-Uni. Ça a été notamment suite à ces témoignages qu'il y a eu une division des mouvements féministes en matière de revendications, justement, reproductives. Parce que certaines femmes disaient, ben voilà, moi, j'ai eu un problème gynéco, je me suis rendue à l'hôpital, et puis on m'a dit que tout allait bien, et je me suis rendue compte des années plus tard qu'on m'avait pratiqué un avortement sans même me le dire. C'était principalement des femmes d'origine, donc soit caribéenne ou bien d'Afrique de l'Ouest, donc les anciens pays colonisés par le Royaume-Uni, qui étaient victimes de ces pratiques imposées par le corps médical, convaincues donc soit qu'elles étaient beaucoup trop jeunes de toute façon ou qu'elles ne sauraient pas gérer leur grossesse puis élever leurs enfants. Le deuxième point que je recoupe sous le terme d'essais cliniques, même si ce sont des essais cliniques qui ne sont pas toujours revendiqués comme tels, ce sont les essais qui ont été faits pour un certain nombre de contraceptifs, en particulier un contraceptif qui s'appelle le dépôt Provera, qui est encore utilisé de nos jours, même s'il est très peu connu. C'est un contraceptif injectable qui nécessite de se faire une injection, donc sous forme de piqûre, hein, tous les 3 mois, et donc de se rendre généralement à l'hôpital pour cette injection. C'est un contraceptif qui a commencé à être testé dans les années 60 et 70, et puis ensuite, malgré un certain nombre de réticences, parce qu'il semblait qu'il y avait une prévalence du cancer du sein quand même accrue, et puis des malformations à la naissance, une éventuelle forme de stérilité qui pouvait découler de son usage, il a quand même été largement conseillé, notamment à toute la communauté African-American aux États-Unis. Et donc les femmes noires, notamment de ces collectifs hein, dont je vous parlais tout à l'heure, Sister Song, se sont aussi vraiment beaucoup battues pour que l'usage de ce contraceptif cesse, ou en tout cas qu'il cesse d'être vraiment proposé en première intention aux femmes racisées. Et puis il y a eu aussi donc, le dispositif intra-utérin Norplant qui a causé énormément de problèmes et qui causait tellement de problèmes en fait que de nombreuses femmes ont dû subir des hystérectomies, pardon, donc ablation de l'utérus, certaines parfois avant d'avoir eu des enfants. Hein, et donc ces deux contraceptifs de formes très différentes ont été massivement testés en fait dans la communauté des femmes racisées, Alors non seulement les femmes noires, hein, African American, mais aussi beaucoup les femmes pauvres, en particulier originaires de Puerto Rico. Donc les portoricaines ont aussi beaucoup subi ce type de violence-là. Un autre exemple donc de ces formes d'injustice reproductive, c'est les violences qui sont contrées par un mouvement qu'on appelle Birth Justice. Donc c'est tout ce qui concerne la justice autour de l'accouchement et de la mise au monde. Et donc des revendications pour que les femmes qui accouchent, donc qu'on appelle des parturientes, ne fassent pas l'objet de mauvais traitements de la part du corps médical dans son ensemble. Donc ça peut être des pratiques qui, de prime abord, ne sont pas extrêmement invasives, mais ça peut être par exemple des injections d'ocytocine pour augmenter la rapidité du travail et la force des contractions pour que ça dure moins longtemps et que la salle de travail dans l'hôpital soit libérée plus vite. Ça, c'est des choses qui se pratiquent également en France, hein, et vous n'êtes pas sans connaître les difficultés financières de l'hôpital, qui sont très proches des difficultés des facs. Hein. Si on peut effectivement rationaliser un petit peu le temps de l'accouchement, ça peut être utile. Malgré tout, ça donne lieu à des contractions qui sont beaucoup plus violentes, à la fois physiquement pour la mère, mais aussi pour le fœtus, qui ressent très fortement, bien sûr, ces contractions. Donc, ça, c'est un exemple vraiment, on va dire, soft, hein. Mais ça peut être aussi des pratiques comme des épisiotomies sans anesthésie. Donc, on vous coupe, hein, la paroi vaginale pour expulser le bébé plus rapidement sans anesthésie. Ça peut être des médecins qui s'asseyent sur le ventre de la femme pour expulser le placenta plus rapidement et qui ensuite évidemment donne lieu à une descente d'organes. Enfin, je vous passe les détails les plus crus, mais voilà, ce mouvement Birth Justice, c'est vraiment l'idée que il y a un respect qu'il est nécessaire de montrer pendant que les femmes accouchent, et ça n'est pas toujours le cas. J'en parle d'autant plus librement que je pense que c'est très important d'être au courant de ces pratiques et du fait que ça existe, même si vous n'êtes pas encore peut-être concerné tout de suite maintenant. Mais si on sait que ça existe, on est aussi beaucoup mieux préparé quand on se rend un jour à l'hôpital et qu'on nous dit « Ah, je vous fais une petite injection de Saint-Ocinon ?»« Non, merci !» Donc voilà, c'est bien aussi d'y être confronté sans en avoir besoin tout de suite. Et donc tout ça, voilà, c'est lié à ce mouvement des violences obstétricales et gynécologiques et de reconnaissance de ces violences qu'on trouve assez souvent sous leur acronyme VOGUE. Vous les aurez peut-être rencontrés comme ça. Je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je poursuis. Vous m'interrompez quand je...
C'est bon.
C'est bon.
Tu as peut-être d'autres exemples.
J'ai encore quelques autres exemples, oui.
Ça nous intéresse.
L'autre exemple, c'est celui des stérilisations forcées. Alors, quand on évoque cette question, on a souvent tendance à penser que c'était des pratiques qui avaient lieu principalement en contexte colonial. On va dire il y a quelques dizaines d'années, voire fin du 19e, début du 20e siècle. Pardon. Je vous ai fait une petite sélection pour vous montrer que ce sont des pratiques qui sont répandues à la fois dans le temps et dans l'espace. Si on regarde toujours les États-Unis, on voit que la pratique des stérilisations forcées, elle a notamment été très pratiquée dans les années 1960-1980, donc il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, à l'encontre des femmes racisées et ou pauvres, sachant que ces catégories se recoupent malheureusement assez souvent. Si on regarde les taux de stérilisation, on voit qu'au niveau des femmes autochtones, donc ici c'est notamment les femmes qu'on peut aussi appeler amérindiennes, on voit qu'entre 68 et 82, 48% d'entre elles ont été stérilisées, contre 15% de femmes blanches seulement. Donc la disparité ici statistique montre bien l'ampleur du phénomène. Pareil pour les femmes noires et portoricaines, comme je vous disais, sur lesquelles les médecins s'entraînaient sans indication médicale, notamment à l'hystérectomie. Là aussi, les documents d'archives de l'époque montraient que les internes en médecine, par exemple, dès qu'une femme de Porto Rico ou une femme pauvre avait un petit problème à l'utérus, il suffisait qu'il y ait une indication vraiment minimale pour qu'ils se disent « tiens, bah, ça va être une occasion pour toi de pratiquer l'hystérectomie ». Alors qu'il y aurait pu avoir vraiment d'autres solutions. Et donc là aussi, ça a été un des combats, enfin c'est toujours d'ailleurs un des combats des organisations qui œuvrent pour la justice reproductive, que l'hystérectomie et la stérilisation, enfin ça peut être aussi la ligature des trompes ou d'autres techniques, soient envisagées comme un dernier recours. Ou si c'est demandé par la femme qui va la subir entre guillemets ou qui la demande, mais pas voilà sur une indication médicale minimale. Au Canada, c'est une pratique qui a beaucoup été pratiquée à l'encontre des femmes autochtones. Donc là, tout ce qui est First Nations, hein, les femmes Inuits, et notamment jusqu'en 2017, en particulier dans la province du Saskatchewan, donc à une plus forte proportion de First Nations que d'autres provinces. Et si c'est une question qui vous intéresse, vous pouvez par exemple aller voir le travail mené par l'International Justice Resource Center, qui est donc une association composée majoritairement d'avocats et d'avocates issus des peuples autochtones, et qui porte des revendications, notamment devant les Nations Unies ou d'autres tribunaux ou d'autres institutions ou instances qui sont susceptibles de lutter contre ces pratiques. En Australie, vous n'allez pas être très surpris, donc stérilisation forcée de femmes aborigènes et de jeunes filles et de jeunes femmes présentant des handicaps. Il y a eu un certain nombre de rapports fédéraux, hein, donc l'Australie est une fédération avec là aussi des provinces assez autonomes. Mais c'est une pratique qui a été documentée au niveau fédéral, notamment depuis 1997. En 1992, il y avait eu un cas dont je n'ai pas pour l'instant trouvé les détails, mais apparemment une affaire assez sévère, The Marion Case, qui revient dans beaucoup d'articles, qui a donné lieu donc à un rapport d'enquête qui a été ensuite revu en 2001 pour voir si des correctifs avaient été apportés. Et finalement, ça a même donné lieu à une action des Nations Unies, pardon, en 2015. Donc, on voit que c'est vraiment des pratiques qui perdurent et qui sont très souvent intersectionnelles, hein, puisque vous voyez que là, à chaque fois, on parle de profils de femmes qui pourraient être répertoriés dans le troisième paragraphe dont je vous parlais au début, hein, dans la déclaration des Nations Unies en termes de violence. De violence contre les femmes. Et puis, dans la plupart des pays, que ce soit des pays anglophones ou non, la stérilisation est encore exigée, ou en tout cas l'a été pendant un certain temps. Là aussi, il y a des variations hein, spatio-temporelles selon les pays. Lorsque les personnes trans veulent procéder à une réassignation, donc très très souvent, la stérilisation était exigée. Donc là aussi, ça fait pour moi partie de ce même processus de stérilisation sans consentement. J'en viens aux deux dernières pratiques. Donc, Kémy connaît un peu plus, puisque j'ai déjà eu l'occasion de les présenter devant elle. Donc, c'est la pratique de la césarienne sans consentement, d'une part, et de la mise à l'adoption sans consentement, d'autre part. Là, je vais vous parler plus spécialement du Royaume-Uni, puisque c'est là vraiment que j'ai fait mes recherches sur cette question. Que ça soit les césariennes ou les mises à l'adoption, elles sont généralement, elles émanent d'un tribunal bien spécifique qui s'appelle the Court of Protection, qui est un tribunal qui gère toutes les questions liées aux personnes dites vulnérables, donc souvent qui présentent des handicaps en termes de santé mentale, et dont il faudrait encadrer un certain nombre de prises de décision par rapport à leur cadre de vie, par rapport à... ça peut être le lieu de résidence, etc., etc. Heureusement que Amy est là. Donc, en ce qui concerne la césarienne et la mise à l'adoption sans consentement, hein, dans les deux pratiques, il y a assez peu de cas. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il y a des générations de femmes ou des générations d'enfants qui subissent des césariennes sans consentement ou qui sont mis à l'adoption sans consentement des parents. Mais ça reste des pratiques qui sont marginales, un peu extrêmes, notamment la pratique de la césarienne sans consentement. C'est une pratique tout à fait extrême puisqu'elle va à l'encontre du droit à l'intégrité physique. La césarienne, il faut savoir que c'est une chirurgie qui est considérée comme une des chirurgies les plus invasives puisque les chirurgiens doivent couper 7 couches d'épiderme avant d'arriver à l'utérus. Ça a des conséquences, bien entendu, aussi par la suite, pour les femmes qui subissent une césarienne. Et c'est le seul cas de figure où le non-consentement d'un patient dans le cadre d'un hôpital peut ne pas être respecté. C'est-à-dire que si vous êtes atteint d'un cancer en phase terminale et que vous refusez tout type de soins en disant « non, je ne souhaite pas d'intervention médicale », les médecins vous laissent « mourir » entre guillemets de votre belle mort. Ici, ça ne sera pas le cas, même si les femmes fournissent un non-consentement éclairé et même rédigé, les médecins peuvent toujours passer outre par le truchement de ce fameux tribunal, donc Court of Protection, en saisissant en fait le tribunal la plupart du temps en urgence, puisque souvent ça se décide quand la femme est déjà en salle de travail, et pour dire voilà, nous sommes confrontés à une femme qui ne souhaite pas qu'on lui fasse une césarienne. Nous pensons que c'est nécessaire. Est-ce que vous nous autorisez à passer outre son non-consentement ? Et donc là, il y a énormément plein de cas de figures différents. Mais très souvent, ce sont malgré tout des audiences qui sont assez révélatrices aussi de rapports de pouvoir complètement en décalage. Avec d'un côté un dossier qui va être monté par souvent l'assistante sociale de l'hôpital qui maîtrise très bien à la fois le jargon juridique et l'organisation de la justice. Et puis de l'autre côté, une femme enceinte qui soit ne sera pas représentée du tout ou alors représentée par un avocat commis d'office qui aura eu le temps de consulter, éventuellement de lui parler peut-être au téléphone. Mais enfin, vous imaginez, elle est en salle de travail, c'est pas forcément... le moment où elle va être à même d'avoir une longue discussion, bien que, mais parfois même pas consultée du tout. Et puis voilà, la décision va être prise comme ça de façon un peu rapide. On a aussi d'autres cas de figure où ça se passe un peu plus en amont et du coup les décisions sont plus éclairées. Mais il reste que c'est vraiment une pratique... qui, je trouve, questionne énormément le respect du non-consentement et constitue vraiment une forme de violence à la fois physique et symbolique qui est assez extrême. Et puis, c'est aussi, donc, si on passe à la pratique de la mise à l'adoption sans consentement, et on a des cas de figure où c'est à la fois une césarienne sans consentement qui va donner lieu directement au placement de l'enfant dans une famille d'accueil en vue de sa mise à l'adoption. Donc, une pratique extrême là aussi, notamment en matière juridique, puisque à l'inverse de la France, en France, on a deux types d'adoptions possibles. On a l'adoption simple et l'adoption plénière. L'adoption simple, ça veut dire que l'enfant va conserver sa filiation d'origine, mais se fait adopter par, par des parents qui deviennent donc ses parents adoptifs. Il a accès, quoi qu'il arrive, à sa filiation d'origine. Au Royaume-Uni, il y a une seule forme d'adoption, c'est l'adoption plénière, et donc on a vraiment une sorte d'effacement ou de destruction, on pourrait dire, de la filiation d'origine au profit de la nouvelle filiation qui est mise en place par l'adoption. Et donc, quand cette décision est prise, ça veut dire qu'il n'y a vraiment plus moyen de revenir sur la décision si jamais il y a eu une erreur commise par la justice. Hein. Et ça, ça a été le cas d'une famille, ça a été bien documenté. Il y a eu des documentaires dont vous avez peut-être entendu parler, Les enfants volés d'Angleterre, en deux volets. Une famille notamment qui avait trois enfants, ils ont été suspectés de violence contre leur troisième enfant qui en réalité souffrait d'une maladie un peu proche de la maladie des os de verre. Et donc les trois enfants ont été placés, et lorsque un appel a été fait de cette décision des années plus tard, le juge a reconnu l'erreur judiciaire mais a dit malheureusement nous ne pouvons pas revenir sur cette erreur étant donné que la filiation d'origine a été effacée et que les enfants ont déjà subi des traumatismes très, très conséquents. Donc là aussi, on voit un petit peu les extrémités auxquelles on peut arriver. Et comme je le mettais là, ces décisions, à mon sens, sont le fruit d'une conjoncture très, très complexe. D'une part, des mesures d'austérité qui conduisent à faire des économies dans tous les secteurs, donc y compris les services sociaux. Les services sociaux qui sont également soumis à des objectifs chiffrés et une gestion managériale qui ne leur permet pas de passer le temps nécessaire à l'instruction de ces différents dossiers. Et puis, l'avènement d'une société qu'on pourrait appeler « risk averse », society, et donc une volonté de gérer le risque à tout prix pour éviter soit des scandales médiatiques, par exemple lorsqu'il y a des violences contre des enfants qui pourraient mener à la mort d'un enfant, et donc une volonté aussi à la fois gouvernementale mais au sein des différents agences ou des différentes antennes de l'État, donc au niveau des institutions locales, au niveau des municipalités, de se prémunir de ces risques. Et donc on va préférer par exemple placer les enfants et mettre en place une procédure d'adoption plutôt que de risquer d'être accusé de mauvaise gestion, de laxisme, etc. etc. Et on voit que ces formes d'injustice reproductive, elles sont vraiment subies plein fouet par les marges. La famille de trois enfants dont j'évoquais l'histoire tout à l'heure était effectivement, par exemple, une famille pauvre. Et on voyait un certain nombre de stéréotypes liés à la pauvreté qui vraiment émanaient du dossier compilé par les services sociaux, qui disaient par exemple qu'ils trouvaient que la dentition des enfants n'était pas très bonne et donc que pour eux c'était vraiment le signe qu'il y avait une forme de négligence de la part des parents, etc. Et ce que je trouve aussi intéressant donc, par rapport à toutes ces décisions donc, de la Court of Protection, c'est que ce sont des décisions individuelles. On est en train de parler d'affaires qui sont traitées donc au cas par cas par les tribunaux. Mais elles font vraiment écho à des pratiques systématiques, comme on a pu en voir en Australie ou au Canada. Vous êtes peut-être familier de ce qu'on appelle « the stolen generation » en Australie. Et donc, tous ces enfants de la communauté aborigène qui ont été retirés à leur famille pour les acculturer à la culture aborigène et en faire de bons Australiens élevés dans des familles d'anciens colons britanniques blancs. Et puis au Canada, donc des enfants placés principalement en institutions religieuses, donc pas dans d'autres familles mais plutôt en institutions. Et alors, ces dernières années, il y avait déjà eu énormément de scandales sur des révélations d'abus sexuels qui avaient eu lieu dans ces institutions religieuses, hein, donc la plupart du temps des pensionnats. Mais là, au mois de septembre, vous avez peut-être suivi ça. Ils ont notamment mis au jour des fosses mortuaires sous les cours d'école des pensionnats. Et donc, ils se sont rendus compte que vraiment, les sévices avaient été jusqu'à la mort d'un certain nombre d'enfants qui étaient ensuite jetés dans des sortes de fosses communes et enterrés donc sous la cour de l'établissement. Ici, on est vraiment en train de parler de choses qui sont extrêmement dures. Et je crois qu'on ne peut pas non plus complètement décorréler ces phénomènes un peu systématiques de ces décisions individuelles. Donc, pour conclure, justement, donc vous avez vu que la question de la justice ou de l'injustice reproductive vraiment comprend des enjeux qui sont à la fois très vastes et très complexes, qu'à mon sens, ce sont des enjeux qui s'inscrivent dans un continuum de violences faites aux femmes. J'y vois vraiment une question politique au sens noble hein, de la police en tant que... police en grec, hein, P-O-L-I-S, en tant que la vie de la cité, la vie de la cité telle qu'elle est occupée par les citoyens et les citoyennes et qui mérite un traitement politique et de se faire vraiment approprier comme une véritable question politique et pas comme par exemple une question de bonne femme comme Jacques Chirac l'avait dit à propos du droit à l'avortement. Et puis il faut garder vraiment à l'esprit qu'il y a des variations contextuelles qui sont ancrées dans l'histoire, qui sont ancrées aussi dans les cultures sur le plan local, donc il ne faut pas essayer de généraliser. Et je pense que ça serait très nécessaire d'avoir une prise en compte holiste, donc qui prenne les choses vraiment dans leur globalité pour apporter des réponses adéquates. Et voilà, je vous ai mis une petite liste de références si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin sur ces questions-là. J'ai été très longue, donc je vous remercie de votre attention.